Partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, un recteur, une académie, une expérimentation, tel est le titre de cette rubrique coproduite par la Direction Générale de l'Enseignement Scolaire et Canal Académie, une rubrique qui a pour but de permettre un dialogue autour d'une pratique d'enseignement innovante qui est encore en expérimentation dans les établissements scolaires ou qui est déjà considérée comme une bonne pratique. Pour cette nouvelle émission, je vous propose de vous pencher sur l'apprentissage de la lecture. En France, tout le monde s'accorde pour dire qu'il faut avancer dans les méthodes d'apprentissage. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes, puisqu'on estime que chaque année, près de 120 000 élèves arrivent au collège sans maîtrise de la lecture et de l'écriture. Pour enrayer ces difficultés qui paralysent les élèves, plusieurs expérimentations sont en cours. Nous parlerons au cours de cette émission du programme PARLER, un acronyme pour rassembler les objectifs suivants: parler, apprendre, réfléchir, lire ensemble pour réussir. Et puis également le programme Lecture, où à la rentrée 2011-2012, le ministère a proposé aux maîtres de grandes sections maternelles de nouveaux outils pédagogiques, des outils qui sont conçus pour aider les enseignants à mieux évaluer les besoins des élèves et aider ces enseignants également à apporter un soutien supplémentaire dans leur apprentissage de la lecture des enfants. Pour en parler avec nous, trois invités au studio de Canal Académie. Marie-Danielle Campion, bonjour.
Bonjour madame, merci de votre invitation.
Vous êtes recteur de l'Académie de Clermont-Ferrand, merci d'être avec nous. Jean-Michel Blanquer, bienvenue à vous, vous êtes directeur de l'enseignement scolaire. Vous nous présenterez tous les deux en détail ces expérimentations en voie de généralisation, mais peut-être faudrait-il plutôt dire d'extension progressive. Vous nous en parlerez dans quelques instants, Marie-Danielle Campion. Donc vous nous parlerez aussi de ces enjeux, de ces expérimentations. Et puis troisième intervenant, Stanislas Dehaene, titulaire de la chaire de psychologie cognitive au Collège de France, membre de l'Académie des sciences. Vous nous expliquerez en détail les mécanismes cognitifs qui s'enclenchent lors de l'apprentissage de la lecture. Et j'ajoute que vous avez eu la direction d'un ouvrage pratique qui s'intitule « Apprendre à lire des sciences cognitives à la salle de classe » paru en 2011 aux éditions Odile Jacob. Première question qui s'adresse à vous deux, Jean-Michel Blanquer, Marie-Danielle Campion. Est-ce que l'on peut faire aujourd'hui un état des lieux exact des enfants qui présentent des difficultés de lecture à la sortie du primaire? J'ai évoqué le chiffre de 120 000 élèves, mais peut-être avez-vous des éléments supplémentaires, particulièrement dans la région de Clermont-Ferrand? Et à partir de quand parle-t-on de difficultés? Jean-Michel Blanquer, pour commencer.
Alors, sur un plan global et national, bon, le chiffre de 120 000 est un peu schématique, il peut correspondre à une certaine proportion. On sait que 15 à 20% des élèves, en effet, arrivent au collège non pas sans savoir lire et écrire, mais disons en ayant une approche très approximative de la lecture et de l'écriture, et en tout cas très insuffisante par rapport à ce qu'ils devraient avoir. Il est à souligner que c'est un problème que l'on rencontre dans beaucoup de pays, voire dans la plupart des pays. C'est donc un problème universel, on peut essayer d'en déceler les causes dans les évolutions de la société, dans une série de choses. Mais on doit aussi le voir dans la trajectoire historique, c'est-à-dire que, de toutes les façons, il n'y a jamais eu 100% de la population qui savait lire et écrire parfaitement, ou même 100% de la population qui entrait tout simplement au collège. Donc tout ceci n'est pas fait pour relativiser le problème, loin s'en faut, mais simplement pour bien le mettre en perspective dans l'espace et dans le temps. Il y a toujours un noyau pour lequel c'est plus difficile d'arriver à le faire entrer dans la lecture et l'écriture, une sorte de loi statistique, si on peut dire. Néanmoins, certains pays y arrivent mieux que d'autres. Et par ailleurs, quand on fait preuve d'un peu de volontarisme, on arrive à des résultats, et donc on doit tendre vers 100% des élèves réussissant à bien lire, écrire et compter lorsqu'ils arrivent au collège. De ce point de vue-là, plusieurs choses sont à dire. D'abord, bon, il y a le cas particulier de la langue française, je pense qu'on y reviendra, parce que elle présente une certaine difficulté, notamment la question de l'orthographe, dont j'ai eu à parler à votre antenne d'ailleurs, est une question assez spécifique dans le cas français. Mais il y a aussi la question des atouts que l'on a ou que l'on n'a pas pour entrer dans la langue. De ce point de vue-là, nous accordons beaucoup d'importance à deux éléments clés, qui sont d'abord le vocabulaire, parce que l'étendue du vocabulaire que l'on a lorsque l'on arrive à l'école primaire est déjà un indicateur des facilités que l'on va avoir pour apprendre à lire et écrire. Et donc il est très important que dans tout ce qui précède l'âge de 6 ans, les efforts les plus importants soient faits pour donner aux enfants un vaste registre lexical, parce que ce simple point est assez prédictif des difficultés qu'on va retrouver plusieurs années plus tard. Et la première des inégalités qui existent dans la société, c'est en réalité l'inégalité devant le vocabulaire au plus jeune âge. Et ça a trait évidemment au contexte familial, social, etc. Donc l'école maternelle, de ce point de vue-là, joue un rôle très important, et même ce qui est fait dans la petite enfance, avec la nécessité d'avoir un bain de langage, en quelque sorte, à l'occasion de l'école maternelle. On peut même qualifier l'école maternelle d'école du langage, et que ce soit par les chants, que ce soit par les jeux, que ce soit par différentes méthodes pédagogiques, on doit arriver à donner ce bain de vocabulaire. On accorde aussi, par ailleurs, beaucoup d'importance à la grammaire, et les deux ensemble ont un impact sur la lecture et l'écriture. Et puis, il y a un certain nombre de principes à respecter, je pense qu'on y viendra, notamment parce que Stanislas Dehaene est un grand spécialiste du sujet, et que nous sommes beaucoup inspirés de choses qu'il a pu dire et écrire avec d'autres au sein du conseil scientifique de l'enseignement scolaire. Mais en appliquant ces principes, on sait que l'on a plus de chances de faire entrer tous les élèves dans la lecture et l'écriture.
Marie-Danielle Campion, donc Jean-Michel Blanquer vient de parler de deux éléments très importants, le vocabulaire, la grammaire, ce sont deux points qui sont des références du programme Parler. Est-ce que vous pourriez nous présenter ce programme ?
Tout à fait. Alors, le programme Parler est un programme qui remonte aux années 2005, qui est monté par une université, avec un médecin scolaire conseiller technique de recteur du recteur de Grenoble. C'est donc un projet de recherche initialement qui induit des réflexions sur les dyslexies et tous les 10. L'Académie de Clermont-Ferrand est rentrée dans le programme Parler, je veux dire grâce à une information qui a été réalisée par l'Académie de Grenoble et sur une réponse à un appel à projet de notre ministère. Alors, pour quelles raisons ? Parce que, et je crois que dans le programme Parler, comme vous l'avez très bien dit, il y a l'aspect de parler, apprendre, réfléchir, donc ce point me paraît tout à fait majeur, et lire ensemble pour la réussite des élèves et pour réussir. Alors, ce programme est aussi évalué. Il fait l'objet d'une évaluation universitaire par un autre établissement d'enseignement supérieur qui est situé à Dijon, c'est l'IRÉDU, là aussi une très belle notoriété. Et l'Académie est rentrée déjà sur le site du Puy. Elle compte continuer dans la mesure où les évaluations seront favorables, ce qui se passe partout. Parce que il y a une adhésion, une demande des enseignants, une demande des corps d'inspection pour progresser. Pour l'instant, nous sommes sur la grande section de maternelle. Il y a adhésion à la fois de la communauté éducative et de la ville du Puy pour progresser ensemble sur les éléments évoqués par le directeur de la DGESCO. Et nous allons continuer l'année prochaine, puisque je pense que vous viendrez au bilan. Pour l'instant, il y a une évaluation en décembre, une évaluation en juin. Les enseignants sont demandeurs. Combien d'écoles ? 35 écoles. 35 écoles, ce qui est quand même remarquable. 35 vraiment impliqués. Deux tiers publics, un tiers privé. Il faut dire que en Haute-Loire, l'enseignement privé est très fortement représenté, donc il n'y a pas de surreprésentation, donc on soit très très clair en la matière, avec des résultats favorables, en particulier pour tous les enfants issus des milieux défavorisés ou qui ont des difficultés autres.
Et donc nous allons y venir en détail avec le témoignage d'un professeur des écoles qui travaille à Clermont-Ferrand, qui s'appelle Fabienne Dupin. On l'entendra dans quelques instants. Ce programme, je le disais, il est non pas en voie de généralisation, mais en voie d'extension progressive. Marie-Danielle Campion, cela signifie quoi, extension progressive ?
Alors, pour quelles raisons ces deux termes ? Il est en voie d'extension parce que il y a une évaluation et avant d'étendre, il faut mesurer les bénéfices de ce programme et l'évaluer de manière partenariale et en tirer les conséquences avec tous les acteurs autour du programme. C'est un programme qui est sur grande section et CP et CE1, donc il faut le voir dans la durée. Et puis, un point qui me semble important, c'est d'avoir l'adhésion. L'adhésion, pour l'instant, elle est acquise et il y a, à mon sens, un point majeur qui est cette extension à la fois dans le temps et aussi dans l'espace. Et on sent d'ores et déjà que le Puy-de-Dôme est intéressé. Donc c'est très, à mon avis, extrêmement positif.
Et donc, Jean-Michel Blanquer, les régions petit à petit s'approprient ce projet ou selon les régions, les réactions sont très différentes ?
C'est évidemment chaque académie qui est en situation d'avoir à appliquer plus ou moins ce programme, mais tout ce que vient de dire Marie-Danielle Campion est tout à fait significatif de la méthode d'extension que l'on recherche sur ce sujet comme sur d'autres, c'est-à-dire nous cherchons à étendre ce qui fonctionne. Ça peut paraître évident de dire cela, mais la méthode expérimentale dans les politiques publiques, et en particulier en matière d'éducation, suppose que nous sachions regarder ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Parce que, par exemple, il y a des classes pour lesquelles 100% des élèves savent lire et écrire à la fin d'une année scolaire et d'autres pas. Donc on sait identifier, non pas la méthode, mais le spectre de méthodes, les bonnes façons de faire, les bonnes pratiques, elles-mêmes instruites par la science, parce que nous savons, par exemple, sur le fonctionnement du cerveau. Stanislas Donne va en parler certainement très bien. Donc nous savons tenir compte et de la recherche scientifique et de l'expérimentation. Donc nous savons être à la fois théorique et pragmatique, de façon à ce que bien les bonnes pratiques soient contagieuses, et de façon à ce que progressivement, lorsque quelque chose fonctionne bien, une autre classe l'imite. Et donc le protocole s'étend, nous le proposons, mais nous n'imposons rien, parce que nous savons qu'un des facteurs de réussite, c'est évidemment l'appropriation par les professeurs de ces bonnes pratiques.
On va rentrer donc dans le vif du sujet. Je le disais, un troisième intervenant est avec nous, Stanislas Dehaene. Vous allez pouvoir nous éclairer sur le plan cognitif. Alors justement, que se passe-t-il dans notre cerveau lorsque l'on apprend à lire ?
Bien, la lecture est une invention qui nous permet d'accéder aux aires du langage dans notre cerveau par le biais de la vision. Quelque chose qui n'avait pas été anticipé par l'évolution. Il est probable que l'évolution de l'homme a permis de mettre en place un circuit pour le langage parlé, mais le langage écrit est une invention culturelle nouvelle. Alors nous avons créé des systèmes de symboles, des lettres ou des caractères qui permettent facilement à notre système visuel de reconnaître la combinatoire de ces objets et d'accéder par ce biais-là à la fois à la prononciation des mots et à leur sens. Donc toute lecture consiste d'abord à reconnaître la chaîne de lettres. Il y a une région bien précise dans le cerveau que j'ai appelée, de façon un petit peu amusante, la boîte aux lettres du cerveau. C'est une région qui s'intéresse donc à l'analyse de la chaîne de lettres, la manière dont les lettres sont organisées dans l'espace. Et sur cette base-là, notre cerveau va accéder à une représentation des phonèmes, la prononciation du mot, et également à une représentation du lexique. De quel mot s'agit-il et quel est son sens ?
Alors pour l'enfant maternel, cette décomposition en phonèmes n'a rien d'évident.
Exactement. Donc en réalité, apprendre à lire, c'est à la fois mettre en place ce code visuel, mais aussi les connexions de ce code visuel vers le code du langage parlé. Et le code du langage parlé doit changer avec la lecture. Les petits enfants comprennent ce que c'est qu'une syllabe, ils ont une notion de l'organisation du mot en syllabe, mais ils ne savent pas ce que c'est qu'un phonème. C'est-à-dire la plus petite unité significative du langage parlé. La différence entre « ba » et « ga », par exemple, porte sur le phonème, la consonne initiale de la syllabe « ba » ou de la syllabe « ga ». Eh bien, le code phonologique est en grande partie le résultat de l'apprentissage de l'alphabet. Il faut que l'enfant apprenne à reconnaître qu'il y a le même son dans « ba », dans « bo », dans « be ». Et c'est une grande difficulté pour l'enfant qui fait partie des difficultés de l'apprentissage de la lecture.
Marie-Danielle Campion, Jean-Michel Blanquer, c'est aujourd'hui un élément important, travailler sur le sens. Vous l'évoquiez un peu en filigrane.
Traditionnellement, il y a évidemment, on accorde beaucoup d'importance au sens. Ce qu'il faut éviter toujours, c'est d'opposer le code et le sens. Parfois, il y a eu des débats stériles dans le passé entre le sens et le code, alors même qu'il faut évidemment et l'un et l'autre. On a besoin du code. Stanislas Dehaene vient de le dire, les enfants doivent apprendre le principe alphabétique, et d'ailleurs il est bon qu'ils sachent leurs lettres dès la fin de l'école maternelle, et ensuite que le cours préparatoire leur permette d'apprendre les syllabes, mais parallèlement, ils ont besoin de comprendre ce qu'ils font, et ils ont besoin d'avoir ce vocabulaire étendu qui signifie du sens, puisque si vous connaissez du vocabulaire, c'est que vous connaissez le sens des mots que vous connaissez, et c'est la combinaison des deux qui permet la réussite de l'enfant. Donc, bien sûr, le sens a beaucoup d'importance, d'où l'importance de lire des histoires aux enfants, d'être dans ce bain de langage dont je parlais tout à l'heure. Mais en même temps, vous n'apprenez pas à faire de la musique simplement en écoutant du piano. Il faut aussi connaître les notes. Et de ce point de vue-là, il faut évidemment faire les deux à la fois, c'est-à-dire le code alphabétique, mais aussi la compréhension de ce que vous faites.
Oui, on voit la différence en termes de compréhension des enfants et des élèves. C'est au moment, je veux dire, du passage en classe supérieure au collège, où les jeunes qui ont un certain code, mais n'ont pas la compréhension, échouent.
Stanislas Dehaene, le français est-il une langue plus difficile à lire qu'une autre langue ?
Le français fait partie des langues difficiles à lire. Au sein des langues alphabétiques, toutes les langues ne sont pas égales. Il y a ce qu'on appelle la transparence de la langue, c'est-à-dire le fait que les lettres puissent se référer à des sons uniques ou pas. En allemand ou en italien, chaque lettre correspond pratiquement à un seul son. Donc lorsque vous connaissez la prononciation de chaque lettre, en italien, vous savez lire pratiquement. Et les enfants italiens mettent quelques mois pour apprendre à lire. Ça n'est pas le cas en anglais, et le français est la deuxième langue européenne la plus difficile, puisqu'il y a beaucoup d'ambiguïté. Dans le mot « femme », par exemple, vous devez apprendre que le premier « e » se prononce « a ». c'est une exception. Il y a des choses comme T-I-O-N, il faut apprendre que ça se prononce Sion et pas Tion. Vous voyez, alors si l'on regarde de près, le français comporte toute une série de graphèmes complexes et de prononciations particulières de certains graphèmes, c'est-à-dire de combinaisons de lettres.
Marie-Danielle Campion, Jean-Michel Blanquer, au regard de ce que vient de nous dire Stanislas Dehaene, ça signifie que si nous sommes un peu au bas de l'échelle dans les statistiques européennes, c'est parce que nous avons une langue bien difficile?
D'abord, nous ne sommes pas vraiment au bas de l'échelle. Nous sommes dans une situation médiane. Je lutte sur ce sujet comme sur d'autres contre les représentations catastrophistes de la réalité. Il faut être lucide et donc bien voir les problèmes. Il y en a, ils sont nombreux. Mais ne pas non plus penser que nous sommes forcément à la traîne. Maintenant, il est exact que la complexité de la langue française est un des facteurs, mais je pense qu'il y a d'autres facteurs sur lesquels on peut agir, parce qu'on n'agira pas sur la complexité de la langue française, qu'au contraire, c'est une richesse. Je pense que le fait que les enfants soient accoutumés dès le plus jeune âge à une certaine complexité, à une certaine finesse, a des vertus cognitives sur d'autres aspects de leur compétence future, et que c'est probablement un atout français que d'avoir justement une langue de ce genre. Donc c'est une chose avec laquelle nous devons travailler. Mais évidemment, il y a d'autres facteurs sur lesquels on peut jouer pour progresser, et c'est en particulier la question de la formation des professeurs sur ces questions, de la connaissance de la part des professeurs de ce qui fonctionne et de ce que nous dit la science. D'où l'importance de ce que nous faisons actuellement au travers d'une expérimentation comme parler, de ce que nous faisons aussi de façon plus globale et plus générale, avec la diffusion de pensées comme celle de Stanislas Dehaene, comme Alain Mentolila, comme les linguistes, les pédagogues que nous réunissons dans le Conseil scientifique de l'enseignement scolaire, et qui nous permettent d'identifier déjà les catégories de compétences sur lesquelles il faut agir pour les enfants, et ensuite, à l'intérieur de ces catégories, de développer des outils qui sont pertinents et que les professeurs peuvent utiliser, et sur lesquels nous pouvons travailler aussi avec les éditeurs, parce que la question des manuels scolaires a beaucoup d'importance sur un sujet comme celui-là. Donc il y a des grands principes qui sont ainsi identifiés, et un travail assez méthodique qui a lieu et qui, nous l'espérons, va porter ses fruits progressivement et commence d'ailleurs déjà à porter ses fruits parce qu'on voit bien que dans une expérimentation comme parler, on a déjà des premiers résultats avec nos élèves et que même à une échelle plus générale, il y a un petit frémissement quant aux compétences des élèves.
Marie-Danielle Campion, donc stimuler les professeurs, mais je crois qu'ils sont en demande, stimuler les élèves. Les parents aussi, les parents doivent être partie prenante de l'apprentissage de la lecture.
Tout à fait. Alors peut-être un point concernant l'Académie de Clermont-Ferrand qui a de meilleurs résultats que la moyenne nationale, ce dont un recteur se réjouit. Peut-être aussi un élément d'information qui est le fait que d'être en situation de difficulté d'expression orale écrite n'est pas un facteur qui empêche l'emploi. Donc les familles ne le vivent pas comme une priorité. D'où ce que vous évoquez. L'importance de faire participer les familles, d'avoir l'école des parents, et ce qui existe dans le programme Parler, bien évidemment, avec des rencontres régulières ou dans d'autres programmes. Jean-Michel Blanquer évoquait Alain Bentolila. Nous commençons à travailler aussi avec Alain Bentolila pour que l'ensemble des équipes éducatives puissent choisir et puissent travailler vers la réussite des jeunes, qui est notre objectif.
Quelle est la différence entre un bon et un mauvais lecteur, Stanislas Dehaene?
Mais progressivement, au cours de l'apprentissage de la lecture, on va voir dans le cerveau de l'enfant se spécialiser les régions qui s'intéressent à la lecture. Et la différence principale, la plus facile à voir peut-être dans le cerveau d'un lecteur en train d'apprendre, c'est le passage du sériel au parallèle. L'enfant doit au départ décrypter les lettres. Et il doit vraiment apprendre que ça se fait de la gauche vers la droite, que chacune des lettres ou groupe de lettres va correspondre à un son du mot cible, et que donc il y a une correspondance entre l'espace du mot et la temporalité du mot parlé, entre l'espace du mot écrit et la temporalité du mot parlé. Au départ, ça se fait donc de façon séquentielle, et progressivement, le cerveau de l'enfant va apprendre à le faire de façon parallèle. Et chez un lecteur expert, chez un adulte, comme vous et moi, nous posons notre regard sur un mot et l'ensemble des lettres sont traitées en parallèle. Qui fait d'ailleurs que nous avons une espèce d'illusion de lecture globale. On croit que le cerveau fonctionne d'une manière globale en tenant compte uniquement du profil global du mot. Ce n'est pas le cas. Le cerveau continue d'analyser chacune des lettres et des combinaisons de lettres, mais toutes les lettres sont traitées en même temps, en parallèle. Et c'est ça qui est caractéristique d'une lecture experte.
Apprendre à lire nécessite aussi de former les lettres, vous l'expliquez dans votre ouvrage, d'associer le geste. Pourquoi ?
Effectivement, des chercheurs de Grenoble, en particulier Édouard Jantaz, ont montré que le fait d'apprendre le geste d'écriture contribue beaucoup à faciliter la lecture. Et donc, c'est une première recommandation, d'ailleurs, qu'on peut faire aux enseignants, c'est que enseigner dès la maternelle à faire le bon geste d'écriture, de la gauche vers la droite, avec des courbes particulières, eh bien, ça aide le cerveau à retenir les lettres, ça l'aide à coder et à décrypter même visuellement de quelle lettre il s'agit, parce que pour décrypter une écriture manuscrite, notre cerveau utilise des régions qui s'intéressent à la prononciation du geste. Donc, reconnaître, c'est aussi reconstruire le geste, si vous voulez. Et puis, notre cerveau dispose d'un code supplémentaire, le code du geste, qui facilite la mémoire de la lettre et de son association avec le son. Donc, tout ça forme un réseau, si vous voulez, plus élargi dans le cerveau lorsque le geste y est associé et donc plus facile à mémoriser.
Dans le livre « Apprendre à lire des sciences cognitives à la salle de classe », vous expliquez en substance que la méthode globale a provoqué des dommages. Mais pour autant, vous n'êtes pas non plus des extrémistes de la méthode syllabique. Alors est-ce que selon vous, la bonne méthode, c'est justement la méthode semi-globale? Ou est-ce qu'il y a encore une autre méthode qui pourrait être appliquée pour l'apprentissage de la lecture?
Non, non, il ne s'agit pas du tout de méthode semi-globale, justement. Ce qu'on explique dans le livre, c'est qu'il y a des principes de la lecture, ce qui ne veut pas dire une méthode unique, mais des grands principes à respecter, parce que tous les cerveaux de tous les enfants sont organisés de la même manière. Donc, je ne vais pas détailler tous les principes qui sont donnés dans le livre, mais disons que nous pensons que les grands principes du code alphabétique doivent être enseignés un par un aux enfants. Rien de la lecture n'est évident à l'enfant. Le fait qu'on aille de la gauche vers la droite, le fait que chaque lettre corresponde à un son, le fait que les combinaisons de lettres permettent de former des syllabes, le fait que déplacer une lettre du début vers la fin, par exemple, d'une syllabe, change complètement sa prononciation, tout ceci aide l'enfant à comprendre les principes du code alphabétique. Et ensuite, il s'agit de s'entraîner de façon régulière, tous les jours. La recherche en neurosciences a montré que la consolidation de l'apprentissage passe par une période de sommeil. Donc, il faut avoir un petit peu d'apprentissage tous les jours et un petit peu de sommeil pour le consolider. Et on peut donc dire très clairement qu'il faut répartir l'apprentissage tout au long de l'année. La concentration de l'école sur 4 jours est une absurdité. C'est une erreur massive qu'on a faite récemment. Il faut qu'au contraire que les parents soient impliqués pour tous les jours faire lire un petit peu. Il faut aussi, bien entendu, faire aimer la lecture. Il y a donc des principes généraux d'utilisation de l'attention et de l'affect de l'enfant, créer un contexte positif autour de la lecture, avoir dans les classes des matériels de lecture, des petits livres qui soient plaisants. Tout ceci, ce sont des principes qu'on énonce dans le livre pour essayer de faciliter l'apprentissage.
Alors j'imagine que à l'écoute de Stanislas Dehaene, vous avez des réactions, Jean-Michel Blanquer, Marie-Danielle Campion, alors sur cette question de méthode syllabique, méthode globale, d'éternel débat, et puis sur, Stanislas Dehaene vient de terminer sur cette semaine de 4 jours, peut-être passer à 5 jours. J'imagine que vous avez des éléments aussi à nous donner.
Alors, pour commencer tout de suite sur ce point, puisqu'il y a parfois des ambiguïtés dans le débat public sur ce sujet, je signale à tout le monde que la semaine de 5 jours est possible d'ores et déjà. C'est-à-dire, ce qu'on appelle la semaine de 5 jours, c'est 9 demi-journées. Nous avons incité les recteurs, les inspecteurs d'académie à la pratiquer au maximum, et notamment le mercredi matin. Le nouveau ministre, Vincent Peillon, vient d'indiquer qu'il souhaitait une semaine de ce type, et donc probablement son extension, voire sa généralisation. D'ores et déjà, le cadre administratif et juridique permet tout à fait cela, et donc c'est un sujet de responsabilisation des adultes, parce qu'on ne peut être que d'accord avec ce que vient de dire Stanislas Dehaene, il faut une bonne répartition du temps. Mais le problème, jusqu'à présent, n'a pas tellement été une question d'ordre ministériel sur le sujet, mais une question de responsabilisation localement, des conseils des écoles, des communes, sur un tel sujet, sur une réflexion sur le temps de l'élève. Et donc, il n'y a pas qu'une question qui va de haut en bas, il y a aussi une question, encore une fois, de responsabilisation de tous. Sur la question plus précise de la lecture, je le disais tout à l'heure, et ça entre en résonance avec ce que vient de dire Stanislas Dehaene, nous ne devons pas opposer code et compréhension, et donc nous ne devons pas opposer ce qui était à l'origine de l'inspiration de la méthode globale avec ce qui est, disons, la tradition de la méthode syllabique. Il est évident qu'il faut apprendre les syllabes, alors on utilise d'autres termes, on dit la relation graphème-phonème, mais il est évident que l'enfant doit connaître les lettres et les syllabes. Mais ceci est donc, bien entendu, c'est important de pratiquer, non pas la méthode syllabique, parce que ceci crée des erreurs quand on dit la méthode syllabique, parce qu'en réalité, il y a plusieurs façons d'avoir le principe syllabique dans une méthode. Mais en tout cas, disons, le principe syllabique, le principe de l'association graphème-phonème. Mais ceci n'est pas contradictoire avec l'idée de bien connaître des mots. Au contraire, il faut apprendre des mots, mais apprendre comment ils sont composés et apprendre leur sens. Donc évitons la stérilité de cette querelle et allons à l'essentiel qui est que l'enfant doit avoir la compétence de décoder parce qu'il connaît ses lettres et qu'il connaît ses syllabes, bien sûr, et faisant en sorte que, grâce à des histoires qu'on lui raconte, à des histoires qu'il va progressivement savoir lire, à des exercices d'écriture, ce point a été dit par Stanislas Dehaene, il est très important, et c'est un point de faiblesse français assez ancien, c'est-à-dire le fait qu'on ne laisse pas assez l'enfant écrire, et on ne lui propose pas suffisamment d'exercices d'écriture, quitte à ce qu'il fasse des erreurs, quitte à ce que, justement, on s'appuie sur ses erreurs pour le faire progresser. Donc nous devons avoir beaucoup plus cette culture de l'écriture, cette culture de l'entraînement, cette culture de l'exercice, qui fait qu'on s'exerce à faire quelque chose et que, par essai-erreur, progressivement, on va avancer sous la houlette du maître ou de la maîtresse. Ça, c'est, je crois, un point très important, parce qu'au fond, on a des points de force français, il ne faut pas les négliger, qui tiennent à notre culture, qui tiennent à notre tradition déductive. Mais on a aussi des points de faiblesse, qui tiennent notamment au fait qu'on ne sait pas suffisamment laisser l'enfant exprimer ce qu'il a exprimé, notamment à l'oral. Et c'est la conjonction des deux qui doit nous permettre de faire réussir l'enfant. Et à chaque fois que c'est fait, et fort heureusement c'est fait, dans beaucoup de cas, eh bien cela donne de très bons résultats.
Marie-Danielle Campion, vous souhaitez rajouter un élément sur ce point ?
Non, simplement opposer des méthodes n'est pas forcément constructif, puisque ça revient à opposer des hommes et leurs exercices professionnels. Par contre, tenir compte de l'avancée de la recherche et des sciences cognitives nous permet de nous rassembler pour la réussite. Et je crois que c'est la véritable démarche et c'est ce que demande le monde enseignant. Ça, je crois que c'est vraiment un point. Et puis, en deuxième aspect, arriver à donner à l'école tout son sens, et ceci aussi en dehors de l'école, puisqu'il faut que les enfants continuent à lire tout au long de leur cursus, puisqu'ils désapprennent à lire. Donc que ce soit à la fois un exercice exigeant, mais aussi une demande de la part des jeunes et de leur famille.
Entrons, si vous voulez bien, dans le monde enseignant, puisque vous venez de l'aborder, Madame Campion. Donc, je vous propose d'écouter le témoignage d'un professeur des écoles qui travaille dans votre région, qui s'appelle Fabienne Dupin. Elle est professeure des écoles à l'école maternelle de la Moutère, à Brive-Charensac, et elle a mis cette année en place le programme lecture, qui dépend donc du programme parler, dans sa classe de grande section, une expérimentation qui est donc en voie de, comme on le disait, non pas de généralisation, mais d'extension progressive, un programme lecture qui prône un enseignement structuré des compétences nécessaires à l'apprentissage de la lecture en CP, une forme de préparation à la lecture. Je vous propose de l'écouter. Est-ce que vous pourriez nous présenter en détail ces trois compétences ?
Oui. Alors la première, c'est donc la conscience phonologique, à savoir 2 séances par semaine de 30 minutes. C'est vraiment un travail oral, en petits groupes sous forme de ronde. Hein. Les élèves sont autour de l'enseignante. C'est un travail à partir de supports, de matériel assez sobre, dans le cadre du travail sur les phonèmes, les rimes, les syllabes, les sons, tout ça pour faciliter l'apprentissage de la lecture en CP. Ensuite, nous avons la compétence de la compréhension. Alors ça, c'est un petit peu nouveau. Il s'agit d'affiner, de réinvestir un vocabulaire. C'est vraiment un travail entre les élèves, un travail oral de vocabulaire. Là aussi, on a un support qui est coloré et qui donc permet aux élèves de bien cerner les différences, et avec un support d'image, et de cerner les différences suite aux exigences demandées par la maîtresse. Et ensuite, il y a la compétence du code alphabétique qui, là, repose sur vraiment un travail sur la lettre, le nom de la lettre, comment elle se prononce, le son qu'elle fait, et son écriture en cursive.
Vous avez réparti vos élèves par groupe. Est-ce que vous pourriez nous dire comment vous avez procédé ?
Alors, il y a eu une évaluation initiale en octobre. Chaque élève avait donc la même évaluation. Au vu des résultats, nous avons donc réparti les élèves en groupes de niveau homogène.
Cela, justement, présente un intérêt pour vous dans votre travail, mais à l'issue de l'année scolaire, vous allez pouvoir harmoniser ces différents niveaux ?
Oui, parce que on se rend compte qu'au fil des séances, eh bien, des élèves du groupe 4, donc ceux qui sont plus faibles, arrivent à pouvoir intégrer le groupe 2, le groupe 3, et on arrive à bien rattraper les difficultés qu'ils avaient en conscience phonologique. Ils arrivent à un bon résultat de conscience phonologique. Les élèves qui sont toujours un petit peu en difficulté et pour qui c'est plus long, on répète la situation, on refait la séance et ils réussissent. Donc au final, au bout des 32 séances, ils seront au même niveau.
Vous enseignez depuis 5 ans, je crois, hein, grande section. Quel constat faites-vous entre les méthodes que vous appliquiez avant et puis aujourd'hui ce programme lecture ?
Moi, je me rends compte que on est au mois d'avril et que j'ai déjà des enfants. Alors, on en avait un dans les autres promotions de grande section, des enfants lecteurs, mais ça relevait plus de l'exception. Là, j'ai un tiers de la classe qui décode, qui déchiffre, qui est très, très intéressé par la lecture. Et puis, j'ai un groupe classe où je n'ai pas d'enfants en grosse difficulté scolaire. C'est-à-dire que on est arrivé, il me semble, avec cette méthode à donner confiance aux élèves, et même ceux qui étaient en grosse difficulté, ben, ils arrivent à réussir dans certains domaines, et du coup, ils prennent de l'assurance, ils ont une estime d'eux, et confiance en eux, confiance en l'école, et du coup, ben, ça présage d'une entrée au CP qui sera plus facile, alors qu'elle s'avérait être un peu difficile.
Est-ce que, selon vous, ça permet de prévenir les dyslexies qui pourraient être potentiellement masquées au CP, au CE1, au moment de l'apprentissage de la lecture?
Oui. Cet entraînement organisé, systématique et répétitif va bien, à mon avis, oui, va bien prévenir, être vraiment là sous terme de prévention.
Pour la dyslexie?
Oui. Oui, peut-être d'autres difficultés.
Donc voici ce témoignage de Fabienne Dupin. J'aimerais avoir votre première réaction à chaud, Stanislas Dehaene.
Ben, je trouve que cette institutrice a tout compris. Hein. D'abord, il n'y a pas de fatalité. Même des enfants qui ont des vrais problèmes de dyslexie peuvent apprendre à lire. Il s'agit simplement de leur enseigner convenablement. On peut former des groupes de niveau, mais l'objectif n'est évidemment pas de tout de suite de serrer les élèves en les bons et les mauvais. C'est au contraire de faire en sorte que chacun bénéficie d'un enseignement adapté et de faire remonter ceux qui sont en difficulté. Et effectivement, c'est la conscience phonologique qui est le meilleur prédicteur de la lecture. Donc, il faut travailler sur la conscience phonologique. Travailler, c'est un bien grand terme. Il faut jouer avec le langage le plus tôt possible et très certainement à la grande maternelle, l'année qui va préparer l'entrée en CP.
Vos réactions aussi à vous, Marie-Danielle Campion, Jean-Michel Blanquer. On a l'impression que ce programme ne présente que des aspects positifs. Marie-Danielle Campion.
Oui, manifestement, à ce stade, il ne présente que des aspects positifs. Je le pense aussi dans la durée, à plusieurs égards. D'abord, vis-à-vis des familles, parce qu'il implique complètement les familles. Deuxième élément, parce qu'il permet une grande personnalisation des parcours et laisser du temps à chaque enfant. Troisième élément, c'est une approche qui est dans la durée. Donc, cette extension sera très certainement faite avec conviction, avec sérieux et avec méthode et exigence comme l'est le programme parlé ou les programmes de cette nature.
Ce professeur des écoles nous expliquait vraiment qu'elle était vraiment partante pour une année supplémentaire, mais elle nous disait qu'elle était malheureusement confrontée à des choix, c'est-à-dire que le temps qu'elle passait pour la lecture, malheureusement, elle ne le passait pas pour d'autres activités. C'est un problème auquel vous êtes confrontée au sein de vos compétences, de votre travail?
Oui, tout à fait. Je crois qu'il faut faire des choix, établir des priorités et une évaluation sera faite. Mais ce que nous gagnons du côté de la lecture, et je crois que la lecture, c'est pas la lecture pour la lecture, c'est la lecture pour la compréhension et pour une approche beaucoup plus globale. On pourrait le dire dans le second degré sur toute discipline. On est vraiment sur des champs extrêmement larges. Mais c'est une des questions qui sera à résoudre. Il y en a d'autres.
Jean-Michel Blanquer.
Oui, le témoignage que l'on a entendu de cette enseignante est tout à fait éclairant et d'une certaine façon résume tout ce que nous avons dit. Au passage, ça permet de relever plusieurs choses. D'abord, l'importance cruciale de l'école maternelle, je crois que c'est important. Il y a un autre point à souligner, c'est vous-même qui l'avez noté tout à l'heure, on ne l'a pas trop entendu là dans le témoignage, mais c'est l'implication des parents. C'est un point important, c'est pourquoi d'ailleurs, dès la rentrée prochaine, il y a une opération qu'on appelle la mallette des parents que nous pratiquions en 6e jusqu'à présent. Et qui va avoir lieu en cours préparatoire dans de nombreuses classes, parce que le principe est d'associer les parents aux enjeux du cours préparatoire, et donc de façon à ce qu'ils puissent à la fois s'impliquer et accompagner leurs propres enfants dans la réussite. On sait que c'est un facteur majeur de réussite que cette implication des parents. Et puis troisièmement, la nécessité de regarder notamment au début de la grande section de maternelle les difficultés que rencontrent les enfants, de le regarder avec lucidité, et en fonction de cela, eh bien, ne pas avoir peur de cette notion d'entraînement et d'exercice dont je parlais tout à l'heure. Non pas dans une vision, parce que parfois on a caricaturé ce genre d'approche en ayant une vision un peu robotisée, déshumanisante de ce que cela pourrait signifier, mais c'est tout l'inverse. C'est au contraire se mobiliser totalement pour ces justement 15-20% d'élèves en général qui ont le plus de difficultés et donc les amener à tout au long de l'année de grande section à se préparer, à bien réussir leur cours préparatoire. Ceci peut se faire d'une manière ludique, ceci peut se faire par le plaisir, le jeu qui caractérise beaucoup l'école maternelle, mais d'une façon très volontariste, avec une vision et une visée qui est de compenser les difficultés, de repérer les dyspraxies quand il y en a, comme ça a été dit, mais aussi d'avoir des entraînements qui vont en quelque sorte débloquer les choses, qui vont faire que l'enfant va d'un seul coup comprendre quelque chose qu'il n'avait pas pu saisir auparavant. C'est à ça que sert l'école, hein, c'est à, notamment à compenser ces difficultés qui peuvent exister à l'entrée à l'école. Et de ce point de vue-là, il ne faut pas avoir peur de cette notion d'entraînement et de cette notion de repérage des difficultés, puisque c'est en repérant les difficultés qu'on peut les compenser, ce n'est pas en faisant semblant de croire qu'elles n'existent pas.
Donc c'est un programme qui, de par son extension, va limiter encore un peu plus les difficultés que rencontrent actuellement les élèves qui apprennent à lire.
C'est un programme et c'est un état d'esprit, parce qu'il n'y a pas que ce programme, hein. Parler est un magnifique programme qui, j'espère, va avoir beaucoup d'influence sur le système, mais qui va aussi avoir une influence directe et indirecte, parce que c'est un état d'esprit quant à la façon d'approcher les choses, mais qui peut s'entremêler avec d'autres choses qui fonctionnent bien. Et cet état d'esprit, c'est un état d'esprit de lucidité, de pragmatisme, d'efficacité au service des élèves, de modernité, parce qu'il s'agit de tenir compte de la recherche scientifique, et je dirais de conciliation entre la tradition et la modernité, qui est finalement une des définitions qu'on peut donner du rôle de l'école.
Merci, c'était le mot de la fin. Merci à tous les trois d'être venus nous voir au studio de Canal Académie. À bientôt pour une prochaine émission en coproduction avec Eduscol. Merci à vous.